Merci d'écouter Euradio pour cette interview enregistrée depuis nos studios à Strasbourg. Nous sommes en ligne avec Laurence Farin, eurodéputée française, membre du groupe Renew Europe. Bonjour Laurence Farin.
Bonjour.
Laurence Farin, vous êtes tout particulièrement membre de la Commission parlementaire à la culture et à l'éducation. Et récemment, le Parlement européen a organisé une réunion publique avec les membres de cette commission culte pour faire le point de ces 5 ans de législature parlementaire à moins de 2 mois des élections européennes. Alors peut-être première question, vous Laurence Farin, si vous deviez prendre en photo cette jeunesse européenne en 2024 et la décrire, que diriez-vous ?
Bon, on se situe dans un moment clé pour l'Europe d'une manière générale. Donc, pour la jeunesse, évidemment, dans un moment clé parce qu'on est de fait dans un moment de gravité qui a pu mettre la jeunesse au premier plan et peut-être dans des réflexions positives ou moins positives par rapport à l'avenir. Donc, je crois qu'à ce titre, on a une grande responsabilité. Il y a eu bien sûr d'abord toute la partie de crise du Covid qui a lourdement impacté les jeunes parce que finalement, à travers cette crise, ils ont fait acte de grande solidarité en mettant leur vie de côté pour préserver les plus fragiles et les plus âgés. Je dirais, ça a été vraiment un moment de grande solidarité intergénérationnelle où ils ont joué toute leur part et ils en ont payé des conséquences dans leurs études, dans leur vie sociale, par rapport à la question de la santé mentale. On a vu combien, après le Covid, c'était une question très importante. Et puis, dans le même temps, encore une fois, la cassure avec les études, avec les stages, avec l'entrée dans la vie professionnelle les a lourdement touchés. Donc, on a eu bien sûr à cœur d'accélérer et de réparer un peu cette période au plan des politiques européennes. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase aussi de grande gravité avec la guerre à nos frontières, avec la guerre en Ukraine, qui met sur la table des grands débats sur notre sécurité, sur la question de la paix. Et je pense que ça influe beaucoup aussi sur leur réflexion et sur la manière de se projeter dans l'avenir. Et dans le deuxième temps, il y a une partie qui est sans doute plus positive, qui est celle, des défis qu'on se lance, parce que ces deux crises, elles ont montré nos zones de fragilité en termes d'autonomie sur l'énergie, sur l'industrie, sur la santé. Et elle nous oblige aujourd'hui à nous dire, prenons notre destin en main. Et le destin, c'est quand même la jeunesse qui va beaucoup le porter. Donc, il n'est pas anodin que le plan de relance historique Next Generation EU s'appelle Next Generation EU, parce que c'est 750 milliards d'investissements qui ont été donc décidés pour se relever de la crise Covid, ont été fléchés vers le soutien à l'économie, mais aussi sur les investissements d'avenir. Et aujourd'hui, le débat qui se pose dans ces élections européennes, c'est quelle Europe on veut finalement. Est-ce qu'on veut une Europe qui se délite et qui est une Europe des nationalismes, où chacun va choisir des partis qui disent renfermons-nous sur nous-mêmes et affaiblissons le Parlement européen. Donc c'est clairement les votes extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Ou est-ce qu'on dit finalement ce mouvement de responsabilité, de prise en main de notre autonomie qu'on a amorcé, est-ce qu'on continue? Et là, les politiques jeunesse éducatives liées aux compétences auront toute leur place parce que c'est quelle Europe on veut pour demain, ensemble, avec des compétences nouvelles et avec des investissements nouveaux pour l'avenir qui seront liés à notre industrie, à notre autonomie énergétique en lien avec la transition écologique de fait, puisque on n'a pas d'énergie fossile, on veut en sortir et donc on doit avoir des innovations. Voilà, et donc dans ce moment-là, l'enjeu qui n'est pas encore tout à fait approprié dans les politiques européennes, c'est les leviers, les outils et les perspectives qu'on donne à nos jeunes.
Vous parliez du plan de relance Next Generation EU. C'est intéressant parce que je voyais récemment que la Cour des comptes européenne sortait une publication récemment à propos de ce plan de relance Next Generation EU. Vous avez dit qu'il s'appelle Next Generation EU parce qu'il est dans l'intérêt de la prochaine génération au niveau de ses réalisations, mais il va aussi faire peser à cette prochaine génération le poids de rembourser ce plan de relance. Est-ce que c'est des choses qui vous font peur, vous, pour l'acceptation par cette nouvelle génération d'un plan qui n'a pas été imaginé par eux, mais dont ils devront composer avec les conséquences ?
Non, parce que l'enjeu aussi sera Alors, on a un plan de remboursement qui a été obéré, bien sûr, par le problème du relèvement des taux d'intérêt qui est dû à la crise en Ukraine. Donc, on a été, c'est vrai, moins, on n'a pas été tout à fait dans notre feuille de route sur ce début de remboursement. La question, c'est celle des financements qu'on va pouvoir mobiliser à partir de la prochaine mandature pour le rembourser. Question des ressources propres notamment, qui sera un véritable enjeu, mais aussi mobilisation des fonds à tous les niveaux des investissements possibles. Donc, non, moi, je ne suis pas inquiète. Et puis, c'est un plan à long terme, certes. Et la question, c'est qu'il ne suffira pas et qu'il faut en prévoir un autre. Et on est vraiment, pour mon groupe, en faveur de... Mon groupe et de ma délégation française en faveur d'un grand choc d'investissement pour transformer l'économie. Donc non, il ne faut pas faire peur aux jeunes avec cette question, mais il est vrai aussi que à la veille d'une élection, c'est les décisions qui vont être prises. C'est-à-dire on continue et parce que le début du remboursement à ce plan a été obéré par l'actualité internationale, il faut vraiment que demain on soit en capacité de décider des modalités de remboursement, des nouvelles ressources. Plus il y a des ressources qui ont été décidées, taxes carbone aux frontières, taxes plastiques, qui doivent être mises en place, la taxation des GAFAM aussi, hein, qui est quand même dans les tuyaux, même si elle n'est pas tout à fait opérante. Enfin, ces décisions-là font que l'Europe travaille aussi à son autonomie financière. Donc c'est ça l'objectif.
Alors, durant votre mandat d'eurodéputée, Laurence Farin, vous vous êtes particulièrement impliquée pour développer encore davantage le programme européen Erasmus+, qui favorise notamment la mobilité des jeunes à travers l'Europe. Vous avez déclaré récemment que l'enjeu qui avait été déployé pendant cette législature sur ce programme Erasmus+, c'était de démocratiser ce programme. Est-ce que c'est chose faite selon vous?
Oui, parce que très concrètement, hein, premièrement, on a pratiquement doublé le programme afin justement de se donner les moyens de faire partir des jeunes ou des publics qui n'étaient pas dans le cadre de ce programme.
Mais
Et
doublé en
on a
termes
mis,
de budget?
en termes de budget, et on a mis dans le règlement d'Erasmus les nouveaux destinataires de ce plan, c'est-à-dire que vraiment très important, sortir des seuls étudiants du supérieur qui ont le plus de facilité pour des raisons de cursus scolaire, de niveau d'autonomie à partir. Finalement, c'est plus dans leur habitude et ce programme Erasmus traditionnel est installé. Donc toute la question était de se dire, maintenant on veut faire partir plus jeunes, on a cette possibilité primaire. Collège, lycée évidemment, pour les faire partir. Et surtout, on va s'adresser à des jeunes qui ont des cursus différents, c'est-à-dire des cursus liés à la formation professionnelle, à l'apprentissage, parce que premièrement, il y a bien sûr la philosophie d'Erasmus qui est celle de faire prendre conscience de cette union que nous formons, des échanges humains et de l'Europe que nous voulons construire. Deuxièmement, on sait que c'est un véritable vecteur d'épanouissement et d'ouverture et donc de progrès et d'employabilité pour les jeunes qui arrivent à partir. Et troisièmement, on a besoin de renforcer nos compétences européenne, c'est-à-dire que face aux enjeux de la transformation énergétique, écologique, du numérique, il est très important que l'Europe avance vers cette union des compétences et ce partage des compétences, qui est aussi un des grands objectifs qu'on mène à travers le futur espace européen de l'éducation et la reconnaissance enfin de tous les diplômes, puisqu'on n'en est pas encore là. Donc, oui, Erasmus a énormément progressé. L'enjeu du prochain programme sera de conforter, hein, ces grandes dimensions de nouveautés et puis aussi de renforcer les nouvelles initiatives qui ont été impulsées particulièrement par la France, qui sont les alliances d'universités européennes, donc mise en réseau d'universités en Europe autour de projets universitaires et académiques communs, qui là aussi sont des facteurs de démocratisation parce que finalement, on a accès à l'Union européenne dans des villes qui sont pas forcément des villes capitales. Moi, j'habite à Pau. L'université de ma ville est en réseau et donc donne accès aux jeunes qui sont là à ces enseignements européens.
Alors vous l'avez dit, hein, le budget de ce programme a considérablement augmenté, mais à côté la précarité étudiante également, si, sans compter, hein, la crise du logement dans plusieurs pays européens qui peut s'avérer être un frein à la mobilité de ces jeunes. Est-ce que ça veut dire que le programme Erasmus+ doit devenir plus social au sens d'un accompagnement et de bourses plus importantes pour les jeunes? Comment le programme européen s'adapte à ce genre de défi?
Malheureusement, pas toujours, pour être honnête, hein, parce qu'il y a eu les bourses sont quand même capées. On a fait un effort sur le plan de la des choix de mobilité. Moi, j'ai fait un rapport sur les actions en faveur de l'écologie dans ces programmes. Donc, on a pris en compte déjà la question des transports, puisque malheureusement, l'avion low cost est moins cher que le train. Donc, on a mis en place des bourses réévaluées. On a encore du chemin à faire sur la question des bourses, parce que finalement, oui, qu'on aille étudier dans une petite ville lettonne ou à Amsterdam, ben, ce n'est pas tout à fait les mêmes coûts. Et on a encore cette question pour en effet augmenter les bourses et les actualiser aussi en fonction de sa ville de destination. Là, il y a encore des progrès à faire parce que ça peut être forcément aussi des sources d'inégalité.
Donc, si je vous suis bien, vous dites que l'une des réalisations récentes qui a été faite, c'est de donner un bonus aux bourses des jeunes en mobilité lorsqu'ils font usage de transports plus verts, plus
Oui.
respectueux de l'environnement.
Oui. À la fois en termes de niveau de bourse et aussi de, vous savez, de temps de transport, parce que c'est aussi un peu plus long parfois de prendre le train. Donc, on a reconnu ce choix de mobilité qui est en plus souvent un choix des jeunes. Donc, on a aussi reconnu leurs aspirations à travers ce rapport qui a été fait avant le changement de nouveau règlement 2021. Hein, je l'ai fait en 2020 et qui a été implémenté dans le nouveau rapport.
Alors on a évoqué la hausse du coût de la vie, y compris pour les jeunes. On a aussi un petit peu parlé de la pandémie de coronavirus qui s'est avérée être un frein pour ce programme de jeunesse européenne comme celui d'Erasmus+. On aurait encore pu parler de l'exclusion des universités hongroises de ce même programme Erasmus+, donc une mesure prise par la Commission européenne en guise de sanctions, hein, dans un contexte difficile. Que répondez-vous à cela? Comment empêcher que ce genre de bouleversement n'impacte trop négativement la jeunesse européenne?
Si je peux me permettre sur ce sujet, non, c'est pas que la jeunesse, parce que le blocage des versements sur les programmes européens ne concernait pas qu'Erasmus, hein. C'était un blocage global pour une raison très simple, c'est que la Hongrie s'exonérer de respecter les valeurs européennes. Donc, en effet, moi, j'ai fait partie de ceux avec mon groupe qui ont porté la conditionnalité des fonds européens aux États qui respectaient les valeurs de l'Union européenne et qui les appliquaient. Aujourd'hui, on a un problème majeur avec la Hongrie qui touche en premier lieu les jeunes parce que les universités sont attaquées dans leur liberté académique. Donc, ça faisait partie des sujets qui était à traiter. Donc, quand on a décidé à l'époque de bloquer le fonds de relance en Pologne ou les programmes en Hongrie, c'était pas pour des raisons de rétorsion, c'était pour des raisons d'affirmer le devoir pour ces États de respecter les valeurs. Or, ça fonctionne. Or, ça fonctionne. Donc, je crois que ce levier, il n'est pas à minimiser. C'est vrai que quand on touche à Erasmus, c'est beaucoup plus affectif que quand on touche à Horizon Europe ou aux fonds régionaux, alors qu'ils ont tous une grande utilité. Mais en effet, on a dit, ça vous pénalisez la jeunesse. C'est vrai, mais pour des bonnes raisons. Et c'est vrai que ça a fait débat au sein du Parlement, y compris au niveau de notre commission culture, parce que certains, même les plus démocrates, avaient ce frein. Moi, j'ai tenu bon sur ce sujet et j'en suis plutôt contente parce que c'est un levier qui fonctionne. Donc, maintenant, le problème, je crois que ce n'est pas l'Europe qui bloque les fonds européens, c'est le dirigeant hongrois, hein. Il ne faut pas se tromper de cible et de coupable.
Donc à vous entendre, si lors de la prochaine législature le même genre de difficulté se présentait, vous adopteriez-vous, Laurence Farin, la même posture, la même fermeté en ce qui concerne les fonds européens à disposition des États, y compris si cela signifiait un impact négatif indirect pour les jeunes européens?
Oui, dit comme ça paraît difficile, mais oui, parce que encore une fois, ça fonctionne. Ça fonctionne et je crois que le meilleur service qu'on peut rendre aux jeunesses européennes, c'est d'assurer que le pays dans lequel ils vivent correspond à des valeurs. On ne peut pas être comme Monsieur Orban, avoir que les avantages de l'Union européenne sans respecter les règles. C'est intolérable. Donc oui, on tient bon. Et puis on a vu que finalement, si on regarde la Pologne, la Pologne a fait au prisme d'attaque à la démocratie, d'attaque aux femmes, aux jeunes notamment, a décidé de changer parce que ça reste des démocraties illibérales, mais des démocraties quand même qui peuvent changer.
Pour évoquer à présent un autre aspect, nous le disions plus tôt, nous sommes à environ un mois et demi des élections européennes. La campagne électorale a bien débuté. Mercredi, moi j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Mercredi 17 avril dernier, les chiffres de la dernière enquête d'opinion publique Eurobaromètre ont été publiés. Ils montrent notamment l'intérêt croissant des Européens pour les élections et aussi un autre fait notable. Ils montrent aussi le classement des priorités qui devraient être celles de l'action de l'Union européenne dans les esprit des Européens. Je cite en premier lieu l'alimentation et la lutte contre la pauvreté. L'environnement, quant à lui, n'est donc plus sur le podium, si on peut dire ça comme ça. Il semble donc recalé au second plan des discours et des mentalités. Or, toujours selon cette étude, dans l'esprit des jeunes, ce n'est pas le cas. L'environnement reste une priorité majeure. Alors comment concilier ces différences d'opinion?
Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une sensibilité qui est différente par tranche d'âge. Et par État membre, hein, parce que là, vous citez les retours de la jeunesse française qui met vraiment cette question de l'environnement en haut de ses priorités. C'est un peu moins le cas dans certains autres pays. Je me rappelle par exemple des chiffres de la Roumanie. Alors, comment on résout ce problème? Finalement, en continuant là aussi, vous savez, moi, j'estime que mon groupe Renew a été à l'avant-garde de toutes les politiques européennes depuis 5 ans, parce qu'on a fait les majorités. Ça, l'objectif, c'est de rester sur ce chemin de crête. C'est de dire d'un côté, oui, il faut assurer notre sécurité. Notre sécurité, on l'assure en avançant sur la défense, en avançant sur l'autonomie et en étant plus ferme sur l'ouverture qu'on a au monde et en étant plus exigeant sur nos échanges. Sur la question des accords commerciaux, par exemple, on peut très bien concilier le commerce et l'environnement, puisqu'on met des clauses aujourd'hui qui sont beaucoup plus contraignantes pour recevoir des importations. Ensuite, quand on parle de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté alimentaire, ça c'est le même question, c'est-à-dire comment on donne la capacité à nos agriculteurs d'assurer une agriculture de qualité. Donc, on veut surtout pas. L'agriculture a été un sujet qui a fait beaucoup de débats parce que pour de multiples raisons, hein, qui étaient en effet les transitions qu'on est en train d'opérer, qui peuvent être parfois délicates, mais aussi parce qu'on sait qu'on a eu problème de surréglementation, surtransposition. Donc aujourd'hui, par ailleurs, dans la PAC, il y a un très, très grand niveau d'éco-régime, de régime écologique que les agriculteurs commencent à mettre en place. Donc, en ça, ils servent la question de la transition écologique. Moi, ce que je défends, c'est une Europe de progrès, donc qui lie la productivité à des progrès environnementaux. Et pour ça, on a des solutions en termes d'agriculture qui peuvent être des solutions de biocontrôle par rapport aux pesticides, des solutions de génétique, parce qu'on a été, on met en place les futurs organismes, nouvelles techniques génomiques. Donc voilà, c'est un chemin subtil, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut dans le discours qu'on puisse l'expliquer. Donc évidemment que le Parlement européen a une importance déterminante, ce que je vous disais en préambule de notre interview, c'est que la composition du Parlement pèsera très lourdement sur les politiques qui seront prises. C'est le poids que peut représenter les partis de gouvernement pro-européens par rapport à ceux qui veulent défaire l'Europe. Ce n'est pas du tout le même avenir. Je pense que c'est ce qu'il faut répéter à nos concitoyens à la veille du 9 juin.
Eh ben en tout cas, le message est passé. Moi, je vous dis un très grand merci, Laurence Farin, pour nous partager vos explications, avant tout et surtout sur les efforts de l'Union européenne en matière de politique de jeunesse. Merci à toutes et à tous pour votre attention.